Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et merci de nous écouter. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 10 août 2018. En direct du studio 16 de La Voix de l'Amérique à Washington, Eric Manirakidz.
Et Anne Albertson.
Au sommaire de cette édition.
Une nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria a coûté la vie à 17 militaires.
L'ONU pointe du doigt les forces de sécurité maliennes dans l'exécution extrajudiciaire de civils.
L'opposition guinéenne a renoncé à sa marche à la suite d'un accord avec la mouvance au pouvoir.
En Côte d'Ivoire, le divorce est consommé entre le PDCI et le parti du président Ouattara.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi la rupture pour ne pas continuer le jeu du chat et de la souris avec le RDR.
Les catholiques congolais se félicitent du comportement du président Kabila vis-à-vis de la prochaine présidentielle, mais la vigilance reste de mise.
Nous avons pris acte de la volonté du chef de l'État de respecter la condition à ne pas se présenter pour son troisième mandat, mais nous appelons la population à rester mobilisée.
Et dans 10 minutes, votre page des sports et l'actualité économique, juste après le journal.
Au Nigeria, au moins 17 soldats ont été tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram, la troisième en un mois. Elle visait une base militaire dans le nord-est du pays. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Des combattants lourdement armés sont arrivés mercredi soir à bord de camions dans le village de Garunda dans l'état du Borno. Ils ont pillé la base militaire. Des troupes ont été attaquées par des terroristes de Boko Haram avec un bilan de 17 soldats tués selon un officier nigérian qui a requis l'anonymat. Il indique également que les djihadistes ont emporté des armes et des véhicules. Cette base militaire venait d'être installée pour les soldats du camp de Djili qui avaient fui l'assaut donné mi-juillet par les combattants fidèles à Barnaoui, leader d'une faction djihadiste dissidente. Boko Haram a mené deux attaques contre des bases militaires en moins d'un mois dans la région. Le groupe représente encore une menace, malgré les affirmations répétées du gouvernement qui prétend maîtriser la situation.
Erné Ungbo, au Mali. Un rapport de l'ONU indique que les forces de sécurité ont tué des civils. Des dizaines de personnes ont été exécutées sommairement dans des opérations contre des islamistes et présumés. Les précisions de Morgane Guiriac.
Dans un rapport envoyé au Conseil de sécurité, des experts onusiens dénoncent une répétition inquiétante de violations des droits de l'homme par les forces de sécurité maliennes. Le document cite 3 attaques sur des civils, dont une qui a fait 12 morts en mai dernier dans un marché aux bovins à Boulkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Bamako avait parlé d'une œuvre de terroriste avant de se rétracter suite au tollé provoqué par des proches des victimes. Le rapport précise qu'à la fin avril, la MINUSMA a mené des enquêtes sur des accusations portant sur 44 exécutions sommaires et 3 disparitions forcées. Il y a eu aussi la découverte récente de 3 charniers près de Mopti où ont été trouvés les corps de 25 civils arrêtés à leur domicile. Le gouvernement a lancé des enquêtes. Le ministre de la Défense avait même reconnu l'implication de l'armée, mais aucune mesure n'a été prise contre les soldats impliqués.
Le Mali retourne aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est en position de force face à un candidat de l'opposition qui n'a pas su unifier le camp de l'alternance. Le vainqueur, qui entrera en fonction début septembre, aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. Le pays reste toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale. Le camp du président Ibeka défendra aujourd'hui, lors d'un dernier meeting à Bamako, son programme « Consolider les acquis, amplifier les réussites et corriger les manques ». Soumaïla Cissé semble pour sa part à la peine. Les candidats arrivés aux 3e et 4e places, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, ont refusé de donner des consignes de vote.
En Guinée, l'opposition et la mouvance présidentielle ont trouvé à Conakry un accord politique sur le contentieux des élections du 4 février. L'opposition obtient la désignation de plusieurs présidents des conseils des quartiers et districts, ainsi que plusieurs maires de communes rurales. D'ailleurs, elle a suspendu une marche qui était prévue ce jeudi à Conakry. Sur place, Zakaria Kamara pour VO Afrique.
Il était utile de s'en sortir pour s'occuper d'autre chose, semblait se réjouir Seluda Alain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, après lecture des conclusions du consensus par Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle. Les résultats auxquels on vient de parvenir ne sont pas toujours satisfaisants par rapport à toutes les revendications, mais nous avons accepté qu'une solution politique soit trouvée, a précisé Seluda Alain Diallo, avant d'ajouter que toutes les parties ont fait des concessions. C'est le cas de la désignation par l'opposition de 26 conseillers de quartier et de district, de 6 maires des communes rurales et du maire de Kindia. La mouvance présidentielle, elle, obtient la désignation du maire de Dubreka. Plusieurs partis politiques avaient contesté les résultats des élections locales du 4 février dans 4 des 5 communes de Conakry. Les accords trouvés mercredi recommandent de régler les contentieux dans ces circonscriptions conformément aux dispositions légales. Le point sur le fichier électoral n'a pas été discuté. Le même jour, l'audit du fichier électoral était officiellement lancé. Après la signature des accords, le chef de file de l'opposition a annoncé la suspension de la marche qui était programmée dans la capitale. Zakaria Camara, Conakry, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, Maître Rodrigue Dadjé, avocat de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, libérée mercredi à Abidjan, va engager une procédure en annulation devant la Cour pénale internationale qui la poursuit pour crimes contre l'humanité. Lundi, le président ivoirien Alassane Ouattara lui a accordé une amnistie pour favoriser la réconciliation nationale, mais la mesure n'a aucun impact sur les procédures devant la CPI. Le mandat d'arrêt contre Madame Gbagbo est toujours en vigueur et la CPI a rappelé à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Madame Gbagbo à la Cour.
En RDC, la décision du président Joseph Kabila de respecter la Constitution en ne se représentant pas constitue une première encourageante dans l'histoire récente du pays. L'ensemble des organisations et pays impliqués dans la crise congolaise ont salué la décision. Les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, la Suisse et le Canada ont dit conjointement que l'engagement de tous les acteurs congolais pour des élections avant la fin de l'année renforcera la stabilité et la prospérité de la RDC et de toute la région. Le président français Emmanuel Macron a même rendu hommage à l'action du président Kabila pour l'unité et l'intégrité de la RDC. Le retrait de Kabila devrait éviter la menace d'importantes sanctions américaines qui auraient compliqué la tâche des entreprises occidentales dans le pays. En RDC même, les pressions étaient fortes sur M. Kabila et sa décision fait baisser la tension d'un cran. Des catholiques ont annoncé ce jeudi soir le report d'une mobilisation qu'ils annonçaient de dimanche à mardi. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Au Zimbabwe, la justice a accordé une libération sous caution à l'opposant Tendai Biti. Quelques heures auparavant, il avait été expulsé de Zambie après le rejet de sa demande d'asile politique. Le point avec Abdourahmane Dia.
La justice zimbabwéenne lui a accordé une liberté sous caution assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques et d'une obligation de se présenter 2 fois par jour à la police. La lutte continue, a lancé Tendai Biti à sa sortie du palais de justice à Harare. Il était arrivé plus tôt, menottes aux mains et sous forte escorte policière. La veille, il avait traversé à pied la frontière avec la Zambie. Lusaka lui a refusé l'asile avant de l'extrader vers son pays. M. Biti, 52 ans, ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale de 2009 à 2013, a été présenté au juge qui l'a accusé de proclamation illégale des résultats électoraux. Il avait annoncé que Nelson Chamisa avait remporté le scrutin du 30 juillet en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent. Son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, va déposer aujourd'hui un recours contre ces résultats qui donnent la victoire au président sortant Emmerson Mnangagwa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Aux États-Unis, un juge de Washington a ordonné ce jeudi qu'un avion renvoya chez elle une mère et sa fille ayant demandé l'asile aux États-Unis rebrousse chemin. Il a aussi menacé le ministre américain de la Justice de le poursuivre pour outrage à magistrat. Les deux migrantes avaient porté plainte pour contester leur expulsion vers le Salvador et une audience consacrée à leur requête s'est tenue ce jeudi. D'après l'ACLU, la puissante organisation de défense des droits civiques qui a déposé la plainte à leur nom, le juge avait bloqué leur expulsion en attendant d'examiner l'affaire. L'avion n'a pas pu rembourser chemin, mais la mère et sa fille mineure n'ont pas quitté l'avion à l'atterrissage et vont être ramenées aux États-Unis.
La Russie et la Chine ont bloqué ce jeudi une demande des États-Unis d'ajouter une banque russe à la liste noire des sanctions de l'ONU, ainsi qu'un fonctionnaire et 2 entités de Corée du Nord. Dans une réponse adressée au Conseil de sécurité, la Russie a émis des doutes sur les allégations de Washington, tandis que la Chine a déclaré au Conseil qu'elle s'opposait aux sanctions proposées par les États-Unis.
Le Canada a discrètement cherché conseil et soutien auprès de certains de ses alliés. notamment l'Allemagne et la Suède, pour tenter de résoudre la crise sans précédent dans ses relations avec l'Arabie saoudite. Ottawa prévoit également de contacter les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni qui entretiennent de solides liens historiques avec Riyad. Lundi, le Royaume saoudien a expulsé l'ambassadeur du Canada et a rappelé son ambassadeur et aussi gelé tout nouveau commerce ou investissement. C'est à la suite de la dénonciation par Ottawa de l'arrestation de militants saoudiens des droits de l'homme. Le Premier ministre Justin Trudeau, c'est le Premier ministre canadien, qui a refusé ce mercredi de présenter des excuses à l'Arabie saoudite.
Au Brésil, le premier débat télévisé de l'élection présidentielle d'octobre a débuté ce jeudi soir sans Lula. L'ancien président actuellement en prison est pourtant grand favori des sondages. Lula purge une peine de 12 ans et un mois de réclusion pour corruption et blanchiment d'argent.
Au Yémen, au moins 29 enfants de moins de 15 ans ont été tués et 48 blessés dans une attaque ce jeudi contre leur bus sur un marché dans le nord du pays. La coalition a reconnu avoir mené une frappe aérienne qui a touché un bus, mais soutient que celui-ci ne transportait pas des enfants, mais des combattants houthis.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et pour l'actualité économique, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Les États-Unis et la Chine ont annoncé des dons de véhicules à l'armée centrafricaine. Après avoir pris part à la cérémonie du don de moyens roulants par les États-Unis le 6 août, la Chine ne compte pas être en reste, indique la présidence centrafricaine. Elle a donc offert 70 véhicules, emboîtant le pas aux États-Unis qui en ont donné une soixantaine. Selon une étude menée par Avas Horizon, les perspectives d'investissement sont prometteuses pour la Côte d'Ivoire qui rentre dans le top 5 des pays les plus attractifs à l'horizon 2022 avec le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria et le Sénégal. Le Kenya et la Côte d'Ivoire signent leur grand retour dans ce classement dont ils prennent la tête, indique le rapport. Les liaisons de Royal Air Maroc vers l'Afrique et l'Europe restent perturbées depuis 20 jours en raison de tensions sociales au sein de la compagnie. Les négociations avec la direction sont rompues depuis le 31 juillet. Le blocage provient d'un problème de sous-effectif chronique avec actuellement 520 pilotes en fonction et 86 postes non pourvus.
Et sans transition, plein feu sur les stades, Nicolas Pinon, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On parle de cette Coupe du Monde féminin, de moins de 20 ans. Enfin, l'Afrique arrache sa première victoire.
Le Nigeria a battu Haïti 1-0 grâce à l'ouverture du score d'Ajibade en première mi-temps. Les Nigérians se relancent dans ce tournoi après la défaite des Chinoises 2-0 face à l'Allemagne. Le prochain match verra s'affronter la Chine et le Nigeria pour une place en quart de finale. Les autres matchs de ce jeudi, les Espagnols qui battent les Japonaises 1-0. Quant aux Américaines, elles ont littéralement fait exploser le Paraguay, une victoire 6-0.
Et nous allons directement au Cameroun où Yaoundé a accueilli le nouveau duo de sélectionneurs, Nicolas.
Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, le néerlandais Clarence Seedorf, est arrivé au Cameroun hier, tout comme le sélectionneur adjoint Patrick Kluivert. Seedorf a été reçu par Dieudonné Happy, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT.
Et nous avons les derniers transferts avant la fin du mercato en Angleterre.
Le défenseur central de Barcelone, Yerry Mina, a rejoint Everton, tout comme l'ailier brésilien Bernard et le milieu portugais André Gomes, annoncé hier des deux clubs. Nancy, de son côté, a officialisé la signature du milieu de terrain franco-congolais, Christopher Maboulou. Le joueur de 28 ans était à l'essai depuis le début du mois de juillet. Maboulou, passé à Châteauroux et Bastia, a signé un contrat d'un an avec le club de Ligue 2.
Bonne nouvelle aux amateurs du ballon rond, reprise de la première ligue anglaise ce vendredi, Nicolas.
Manchester United, les Red Devils affrontent ce vendredi Leicester en ouverture de la première journée de Première Ligue. Sachez également que l'attaquant vedette de Leicester, Jamie Vardy, a prolongé son contrat pour les quatre prochaines saisons. Il était l'homme fort du titre de champion en 2016 et membre de l'équipe d'Angleterre, demi-finaliste de la récente Coupe du Monde. Il avait inscrit 20 buts la saison dernière en Première Ligue.
Et on termine avec le Tour cycliste du Rwanda.
95 km pour la cinquième étape entre Karanji et Rubavu. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge Julian Hellman qui s'impose avec deux petites secondes d'avance sur le Sud-Africain Julius Jade et trois secondes sur l'Espagnol David Lozano. Au général, Samuel Mugisha reste en jaune. Demain, sixième étape entre Rubavu et Kinigi, longue de 108 km.
C'était les sports de Nicolas Pinon. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manela Kidza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, une dizaine de civils peuls ont été tués mardi dans le centre du pays. Ces personnes devaient se rendre à la foire de Sofara, 80 km au sud de Mopti. Les deux os, chasseurs traditionnels, sont pointés du doigt. Idriss Fall, adjoint Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulakou, une association de la communauté peul du Mali.
L'acte est passé le mardi. C'était des marchands. Ils partaient au marché de Sofara. Et nous, en peul, on appelle la zone Kaka. Ils traversent les fléaux. Vers 10h du matin, leur pirogue a été stoppée par des hommes habillés en sacerdozo, lourdement armés. Vers 14h, ces gens arrêtés, il y a eu une sélection. 14 ont été retenus, 3 autres ont été libérés. Et les 3 ne sont pas de la communauté Peul. Mais les autres 14 retenus sont tous des Peuls et ils ont été tous aussi massacrés. D'ailleurs, l'enterrement de ces 14 personnes a eu lieu jeudi.
Mais on croyait que les problèmes entre les Peuls et les Dozo, que c'était fini et réglé.
Non, pas du tout, même pas. Ça continue toujours. Et d'ailleurs, pour votre information, même ce jeudi matin, il y a aussi un petit village, toujours dans le cercle de Guéné, qui a été aussi attaqué par ces mêmes sacerdozo. Et là-bas aussi, 3 personnes ont été tuées jeudi.
Ces dozo, ils opèrent comment? Parce que dans le centre du Mali, il était interdit de porter des armes de guerre, il était interdit de rouler en moto.
Oui, c'est interdit pour certaines communautés, mais pas pour d'autres. Depuis presque une année, c'est interdit. Mais malheureusement, ces donjons continuent toujours à rouler sur des motos, d'ailleurs des dizaines de motos, et avec les armes de guerre, sans problème. D'ailleurs, l'un des 3 personnes qui ont été libérées, l'un d'eux expliquait comment est-ce que ces donjons ont été habillés. Il disait qu'ils étaient habillés en tenue donjons, mais les chaussures, là, c'est des rangers. C'est que les militaires portent. C'est ces chaussures-là que ces donjons aussi portaient.
Il y a un mois, le ministre de la Défense avait reconnu l'implication de l'armée dans l'assassinat de 25 civils vers Mopti. Est-ce qu'il y a une suite à cette affaire?
Pas à notre connaissance. Pas d'arrestation, pas de sanctions. Et ça continue toujours. Hein.
Est-ce qu'on a su qu'est-ce qui avait tué ces 12 civils-là dans un marché dans le centre du Mali?
Oui, ça fait à Boulkissi, près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne. Le Mali fait partie du G5 Sahel. Donc ils étaient en groupe près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne qui a massacré, ils ont tué ces 12 civils dans le marché. Et d'ailleurs, l'administration même a enquêté sur ça. Ils ont même reconnu que l'armée a tué ces 12 civils. Je vous dis toujours, il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a même pas d'enquête. Parce qu'on nous dit toujours, oui, il y a une enquête ouverte, mais l'enquête n'aboutit absolument à rien.
Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulakou, une association de la communauté Peul du Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Côte d'Ivoire, après plusieurs mois de tensions entre la majorité au pouvoir, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. Cette rupture fait éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Et pour comprendre les enjeux de ce divorce politique, Yacouba Ouedraogo a joint Ferro Bali, journaliste freelance à Abidjan.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi la rupture pour ne pas continuer le jeu du chat et de la souris avec le RDA. Le PDCI RDA a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara depuis 2010. En 2015, l'ancien chef de l'État, Henri Konan-Bédier, avait fait l'appel d'Aoukro pour que tous les partis de la coalition RHDP s'alignent derrière le chef de l'État sortant Alassane Ouattara. Mais lui, il espérait en retour que en 2020, la coalition ferait en sorte qu'un militant du PDCI soit candidat et soutenu. Tel n'est pas le cas.
Est-ce la création en juillet dernier du parti unifié RHDP par le président Ouattara qui a précipité quand même les choses?
Naturellement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Henri Konan-Bédié, président du PDCI RDA, est le président du directoire des présidents du RHDP. Et ce n'est pas lui Bédié, qui a convoqué cette réunion du parti unifié RHDP. Autre chose, c'est que des militants se réclamant du PDCI RDA et conduits par le ministre Adjoumani Kobena ont créé sur les traces du président Oufo-Boigny. Ce mouvement a été déclaré interdit au PDCI RDA. Mais ce sont ces militants qui ont signé l'acte
de naissance du parti unifié. Naturellement, le PDCI a interprété tout cela comme une manière de lui tourner dos.
Cette rupture intervient alors que rien qui est, le président Ouattara et le patron du PDCI, Henri Kona Bédié, se sont rencontrés.
Justement, cette rencontre a été l'occasion pour le président Bédié d'informer son cadet que désormais, l'alliance politique qui a prévalu jusque-là est rompue.
Quelles sont les implications de cette rupture pour le PDCI?
Le PDCI entre ainsi officiellement et formellement dans l'opposition. Et naturellement, le PDCI a ouvert les bras dans son communiqué à tous les Ivoiriens qui verraient les choses de la même manière que lui pour tenter de conquérir le pouvoir d'État en 2020.
Les élections locales, c'est pour octobre. Après ça, il y a la présidentielle en 2020. Faut-il entendre que le PDCI va présenter et des candidats pour les élections locales et pour la présidentielle de 2020?
Le PDCI a dit que pour les élections locales, municipales et régionales, ce sont ses militants qui seront soutenus. Et pour la présidentielle, naturellement, le PDCI a toujours dit, avec ou sans le soutien du RHDP, il aura un candidat en 2020.
Voyez-vous Alassane Ouattara ou Henri Kona Bédié candidat à la présidentielle de 2020?
Je suis convaincu, ça n'engage que moi, que le président Ouattara ne sera pas candidat. Il a fait deux déclarations en presque deux mois qui disent clairement qu'il veut se retirer. Quant au président Henri Kona Bédié, là, je ne peux pas vous dire clairement quelle est ma conviction. Toutes les options sont possibles au PDCI-RDA.
Ferron Bali, journaliste freelance à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Centrafrique, l'assassinat de trois journalistes russes continue de susciter des interrogations. Au-delà de ce fait divers, c'est la présence russe dans le pays qui suscite toujours des interrogations. En effet, des militaires russes assurent déjà la protection du président Touadéra et une société de sécurité opère aussi en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par les groupes rebelles. Pour un éclairage, Nicolas Pinot a joint Michael Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
On commence à reparler de la présence russe en Afrique, mais il faut quand même relativiser. Juste un élément, quelques chiffres, le commerce entre la Chine et l'Afrique en 2017, c'est 170 milliards de dollars. Le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était en 2017, 13,8 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Bref, c'est 10 fois moins que le commerce entre la Chine et l'Afrique. Il y a quelques point d'ancrage de la Russie en Afrique, le Maghreb et l'Égypte, aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, mais la Russie développe aussi des rapports avec d'autres États d'Afrique centrale et un peu dans l'Afrique de l'Ouest.
Quel intérêt pour Moscou de renforcer ses liens avec le gouvernement centrafricain ?
Ce n'est pas un secret, la République centrafricaine n'est pas un État très riche, mais côté enjeu économique, l'or et les diamants, ce n'est pas un enjeu crucial. La Centrafrique, c'est aussi le pétrole, et il y a des réserves de pétrole assez importantes dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Pour le pétrole, le problème, c'est l'enclavement. Si on commence à exploiter le pétrole d'une manière importante, il faudra désenclaver et construire des oléoducs. Enfin, c'est l'uranium, le fameux gisement de Bakouma qui a été découvert par des experts français après la guerre. Tout le saga d'Arriva, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec le gisement de Bakouma? Est-ce que les Russes cherchent à se positionner d'un côté stratégiquement et aussi de se positionner par rapport à l'exploitation des richesses naturelles de la République centrafricaine?
Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
En RDC, les catholiques congolais ont reporté la grande mobilisation prévue de dimanche à mardi contre le président Joseph Kabila. Il salue le geste de bonne foi du président congolais qui a renoncé à la présidentielle du 23 décembre 2018 en conformité à la constitution qui interdit un troisième mandat présidentiel. L'Église catholique congolaise est à l'origine de trois marches anti-pouvoir en début d'année. Eddie Sango a joint à Kinshasa un des membres du comité laïque de coordination, Jonas Tshiombela.
C'est une étape qui est gagnée par la volonté et au prix des 1000 sacrifices. Cette étape ne doit pas occulter les combats de la démocratie qui démarre. Nous sommes dans un processus qui est loin d'être crédible. Beaucoup de choses restent à faire dans ce processus. Vous le savez bien que la répression violente se poursuit dans notre pays. La restriction des libertés et droits des citoyens n'est plus à démontrer dans notre société, et cela à la veille de grandes manœuvres électorales. La CENI, qui est l'institution, l'organe d'organisation des élections, est en train de tenter d'imposer la machine à voter sans consensus, ni dans la loi, cette machine n'a jamais été évoquée. Nous avons pris acte de la volonté du chef de l'État de respecter la condition à ne pas se présenter pour son troisième mandat. Mais nous appelons la population à rester mobilisée et prudente, parce qu'on ne sait pas, en acceptant cette volonté, qu'est-ce qu'on nous réserve encore dans l'avenir.
Quels deviennent ces trois jours de manifestation que vous avez prévus?
En signe de bonne foi, le comité laïque de coordination, qui défend les intérêts de la population congolaise, accepte aussi de donner un signal fort et provisoirement, temporairement, de sursoir son programme d'action du 12, 13, 14 août pour faire preuve de bonne foi et encourager davantage le chef de l'État et la CENI de prendre des dispositions utiles et nécessaires et urgentes pour garantir au peuple congolais le droit des élections libres, inclusives et transparentes.
Vous vous battiez essentiellement contre un éventuel troisième mandat du président Joseph Kabila. Maintenant qu'il ne se représente pas, quel sens prendra votre combat?
Notre combat, en ce moment précis, va prendre la direction de la crédibilisation du processus électoral, qui doit devenir un processus inclusif, apaisé, dont les résultats seront acceptés par toutes les parties prenantes. C'est une partie de l'accord qui est respectée, mais il y a une autre partie de cet accord qui parle des mesures de décrispation. Il faut assainir l'environnement préélectoral.
Avec l'évolution des événements, pensez-vous pouvoir sortir de la clandestinité maintenant?
Nos familles sont dans des situations extrêmement difficile. Des visites nocturnes, autant de questions sont là sur nous. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver à tout moment dans cette situation telle que nous sommes en train de la traverser maintenant. Vous dire à quel moment nous allons sortir, nous attendons également le signal fort de la part du gouvernement qui nous menaçait pour mettre la main sur nous, d'envoyer le signal fort d'apaisement pour qu'on ait des élections libres. Nous, on ne se bat pas contre les individus, nous nous battions pour que les règles du jeu soient respectées.
Jonas Tshiombela, membre du comité laïque de coordination à Kinshasa.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du bilan et des perspectives dans la lutte contre le VIH en RDC.
35 ans après la mise en œuvre des premiers programmes de lutte contre la maladie dans le pays, le bilan est mitigé et le chemin vers l'éradication reste long.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Bosiki Bernard du Programme national de lutte contre la maladie. Il nous parlera des succès, obstacles et actions prévues contre l'épidémie.
Nous écouterons aussi Ange Mavoula, responsable de l'évaluation de la plus grande association de personnes vivant avec le VIH dans le pays. Il nous parlera du projet de code unique pour les malades.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Vanilakiza à Washington. Levez-vous si vous dormez encore. Votre vendredi a besoin de vous pour l'accompagner. Ici, on dit Happy Friday. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.